Chapitre 9. Comment Bessie Pryor répondit aux deux lettres et ce qui en résulta. Elle relut les lettres très souvent et celles de Mrs. Miles plus souvent encore. Philippe, dans sa propre lettre, exprimait son amour dans toute sa force. Et que peut-on attendre d'une lettre de son amoureux, sinon l'expression forte et virile de l'amour qu'il éprouve ? Elle était très satisfaisante et déclarait, ce qui était très important, que le bonheur de Philippe était lié au bonheur de Bessie. Mais la lettre de Mrs. Miles était la plus forte des deux et, de loin, la plus suggestive. Elle avait tellement bien mêlé la tendresse à la fermeté, elle avait enveloppé son austère leçon sur le devoir des femmes dans tant de douceur et d'amour qu'il était impossible qu'une fille comme Bessie Pryor ne fût pas touchée par ses arguments. Il y avait des moments pendant la nuit où elle se décidait presque à se soumettre. Une femme ne peut s'élever que par la souffrance. Elle n'était pas certaine d'avoir envie de s'élever, mais elle voulait sans aucun doute accomplir son devoir, même si de la souffrance devait en résulter. Mais il y avait une phrase dans la lettre de sa tante qui, loin d'appuyer les desseins de la rédactrice, produisait plutôt l'effet contraire. « Depuis que vous êtes venue à moi, jamais vous n'avez été fausse. » Fausse. Non, elle espérait bien qu'elle n'avait jamais été fausse. Quel que soit le devoir d'un homme ou d'une femme, ce devoir devait être fondé sur la vérité. Et n'était-ce pas son devoir particulier en ce moment d'être sincère envers Philippe ? Je ne prétends pas que Bessie était complètement logique. Je ne sais pas si, en se confortant dans son amour, elle ne se laissait pas tout simplement guider par son inclination personnelle. Bessie était peut-être quelque peu trop prompte à penser que son devoir et son plaisir allaient de pair. Mais cette assurance tranquille de n'avoir jamais été fausse renforça sa résolution d'être loyale maintenant envers Philippe. Elle prit toute la journée suivante pour réfléchir, s'abstenant durant tout ce temps de la moindre conversation intime avec Miss Gregory. Alors, le matin suivant, elle écrivit ses lettres. Celles qui étaient destinées à Philippe seraient faciles à écrire. Les mots viennent facilement quand il s'agit d'accepter du fond du cœur une proposition ardente et bienvenue. Mais opposer un refus à un être aimé et respecté, refuser ce que cet être aimé a le droit de demander, peut être très difficile. Bessie, en bonne fille, s'attacha à la tâche la plus difficile en premier, et elle entra tout de suite dans le cœur du sujet, comme un cavalier fonçant sur la haie qu'il doit franchir. « Ma très chère tante, je ne puis faire ce que vous me demandez. La promesse que je lui ai faite m'est si sacrée que je ne puis la briser. Je ne puis lui dire que je ne serai pas à lui alors que je me suis déjà donné à lui. » « Chère, très chère tante, mon cœur est triste tandis que j'écris ces lignes, parce que je pense que je me sépare de vous presque pour toujours. Vous savez que je vous aime, vous savez que je suis désespérée depuis que vous m'avez banni loin de vous. Tous vos petits mots d'amour sont pour moi autant de coups de poignard, parce que je ne peux vous montrer ma gratitude en faisant ce que vous me demandez. Cela semble tellement difficile. » Je sais que, sans doute, je ne le reverrai plus jamais, et maintenant je suis sur le point de me séparer de vous, et vous serez mon ennemi. Dans le monde entier, il n'y a que deux personnes que j'aime réellement. Je ne peux renoncer à lui, et je ne le ferai pas, mais je voudrais revenir à Launay maintenant, seulement pour être avec vous. Mon amour pour lui se contenterait de la seule permission d'exister. Mon amour pour vous ne peut se satisfaire si je ne suis pas autorisé à être avec vous à nouveau. Vous dites que le devoir d'une femme consiste à souffrir. Je fais tout ce que je peux pour faire mon devoir, mais je sais quelle est ma souffrance en l'accomplissant. Quelque colère que vous nourrissiez contre votre Bessie, vous ne pouvez penser qu'elle puisse se montrer ingrate sans souffrir. Mais bien que je ne puisse me résoudre à renoncer à lui, vous n'avez pas à craindre que je fasse quoi que ce soit. S'il devait venir ici, je suppose que je ne pourrais pas éviter de le voir, mais je lui demanderai de partir à l'instant, et je prierai Miss Gregory de lui faire savoir qu'il ne serait pas le bienvenu dans la maison. En toute chose, je me comporterai comme si j'étais votre fille, même si je sais que je suis loin d'avoir le droit de faire usage de ce nom adoré. Mais, chère tante, aucune fille ne pourrait vous aimer plus ou lutter plus fidèlement pour vous obéir. Je reste, quelle que soit votre colère, votre pauvre, aimante et affectionnée Bessie. La seconde lettre n'a peut-être pas besoin d'être rapportée dans son intégralité. Même dans une chronique telle que celle-ci, il semble y avoir comme une trahison ou un manque de cette retenue à laquelle sont soumises les jeunes filles, quand on rend public les mots d'amour qu'échangent un homme et sa bien-aimée. La lettre de Bessie était sans aucun doute pleine d'amour, mais elle était aussi pleine de prudence. Elle lui demandait de ne pas venir à Avranches. Quant au mariage dont il avait parlé, elle l'assurait qu'il était tout à fait impossible. Elle ne renoncerait jamais à lui, et elle l'avait dit à Mrs. Miles. En cela, son devoir envers lui était plus important que son devoir envers sa tante. Mais elle était si soumise à sa tante qu'elle ne lui aurait désobéi en aucune façon. Dans l'intérêt de Philippe, et uniquement dans son intérêt, elle acceptait un délai supplémentaire. Bien sûr, elle savait bien qu'il était possible que le poids fût trop difficile à porter pour lui. Dans ce cas, il pourrait se rendre libre sans encourir le moindre mot de reproche de sa part. Il devait en être seul juge. Mais pour le moment, elle ne pouvait former aucun plan pour le futur avec lui. Sa tante désirait qu'elle reste à Avranches, elle resterait à Avranches. C'était assurément des mots d'amour. Mais la lettre prise dans son ensemble était plus austère et moins affectueuse que celle qu'elle avait écrite à sa tante. Très vite vint la réponse de Mrs. Miles, mais elle était si brève et si dure qu'elle brisa presque le cœur de Bessie dans sa laconique sévérité. « Vous êtes séparés de moi et je suis votre ennemi. » C'était tout. En dessous de cette ligne unique, la vieille dame avait signé son nom, M. Miles, en grandes lettres pleines de colère. Bessie, qui n'ignorait rien de sa tournure d'esprit, comprit exactement ce qu'il en était quand elle avait écrit ces quelques mots et quand elle avait tracé avec soin cette signature infamante. Alors que tout soit brisé et que le seul rayon de soleil qui restait dans ma vie s'éteigne à son tour, personne ne pourra dire que moi, Lady Delaunay, je n'ai pas fait mon devoir. » Et c'est sans doute ce que s'était dit Lady Delaunay quand elle avait écrit ces lignes terribles. Bessie le comprit bien et elle pouvait presque la voir en train d'écrire. Alors, dans son désespoir, elle raconta tout à Miss Gregory et lui montra les deux dernières lettres et elle lui montra cette terrible démonstration de courroux. Et elle lui décrivit exactement les deux lettres qu'elle avait écrites, à sa tante et à son bien-aimé. Miss Gregory n'avait qu'un seul remède pour cette maladie, et c'était celui qu'elle-même avait pris quand elle avait été sujette au même mal. Le gentleman devait être autorisé à entrer dans le monde pour y chercher une femme plus appropriée, tandis que Bessie devrait se contenter, pour le reste de sa vie, du plaisir de se souvenir. Miss Gregory pensait que c'était même un privilège d'avoir été aimée par le major général. Mais quand Bessie lui répondit, presque avec colère, que cela ne lui suffirait pas, Miss Gregory suggéra humblement que cela pourrait bien changer avec les années et qu'un autre soupirant, peut-être Mr. Morrison, pourrait à terme lui suffire. Mais Bessie s'indigna à cette idée. Et Miss Gregory fut heureuse de s'en tenir finalement au remède simple et pur qu'elle avait trouvé suffisamment bon pour elle. Puis un mois passa, un mois sans une seule ligne de Launay ou de Philippe. Il n'était pas surprenant que Mrs. Miles n'écrive plus. Elle avait déclaré qu'elle était une ennemie, et c'était la fin de tout. Durant le mois, un chèque était arrivé à Miss Gregory par quelque homme de loi, et avec le chèque, il n'y avait eu aucun indice laissant penser que l'arrangement devait se terminer. Il en résultait que Mrs. Miles, en dépit de son inimitié, entendait continuer à faire jouir la jeune révoltée du confort dont elle avait profité jusque-là. Sans doute, on ne pouvait rien attendre de plus. Mais concernant Philippe, même si Bessie était parvenue à se convaincre et à convaincre Miss Gregory qu'elle ne désirait pas du tout entretenir une correspondance dans les circonstances actuelles, elle n'en trouvait pas moins que cette totale rupture de tout lien était difficile à supporter. Mary Gregory, écrivant à sa tante, ne dit rien de Philippe et se contenta de remarquer que Bessie Pryor serait heureuse de savoir que sa tante avait presque recouvré la santé et pouvait à nouveau visiter les pauvres. Alors Bessie commença à penser non que Philippe était semblable au major général, car elle n'aurait pu y croire, mais que des motivations plus élevées et plus nobles avaient pu le conduire à se soumettre à sa mère. Si tel était le cas, jamais elle ne lui en ferait le reproche. Elle le pardonnerait de tout son cœur, elle accepterait son destin et supplierait sa vieille amie de l'autoriser à retourner à Launay. Et par la suite, elle supporterait cette malédiction que lui avait envoyée le destin en une patiente soumission. Si le mot devait être prononcé une seule fois par Philippe, alors elle déclarerait librement que tout était fini, maintenant et à jamais, entre elle et l'homme qu'elle aimait. Après avoir enduré une telle souffrance, son amie la pardonnerait certainement. Cette phrase terrible « Je suis votre ennemi » serait certainement oubliée. Mais même s'il en était ainsi, si leur amour devait finir, alors certainement Philippe écrirait. Il ne la laisserait pas dans l'incertitude s'il prenait une telle décision. Cette pensée aurait dû la soutenir, mais Miss Gregory lui expliqua que cela avait pris 3 mois au major général pour envoyer la lettre fatale et lui annoncer son intention de faire un mariage d'argent. Très certainement, d'après Miss Gregory, Philippe suivait le même cheminement. Telle était à son avis la fin naturelle d'une histoire d'amour comme celle-là. C'était le genre de souffrance que de jeunes filles sans dot, mais avec un cœur à aimer, étaient prédestinées à éprouver. Il ne faisait aucun doute que Miss Gregory regardait la fin de l'histoire avec une certaine satisfaction compatissante. Si elle avait pu donner à Bessie tout Launay et son bien-aimé, elle l'aurait fait. Mais la tristesse et la déception étaient congénitales en elle, et un cœur brisé mais toujours vif était dans son esprit la plus belle des parures féminines. À ses yeux, elle était l'héroïne de sa propre romance, et elle trouvait qu'il y avait du bon à être l'héroïne. Mais Bessie était indignée, non que Philippe puisse faillir, mais qu'il ne daigne pas écrire pour le lui dire. Je pense qu'il aurait dû écrire. Voilà ce qu'elle s'apprêtait à dire, quand la porte s'ouvrit et que, soudainement, Philippe Miles fit son entrée dans la pièce.